Bienvenue, bienvenue pour le 9e épisode de Déclencheur, le podcast qui parle photo. 3 segments dans cet épisode, l'édito qui sera consacré au choix d'un appareil photo, le segment principal qui sera consacré à l'archivage et la conservation des photos numériques, et le 3e segment consacré à vos commentaires et réactions. Notez dès à présent l'adresse du site www.déclencheur.com. C'est sur le site que vous pourrez vous abonner et on supporte nombreuses méthodes d'abonnement, entre autres l'email, iTunes ou n'importe quel agrégateur RSS. Sur le même site, vous pourrez poster un commentaire, une réaction ou retrouver les liens de l'épisode. Avant de commencer réellement l'épisode, je voudrais prendre un instant pour vous parler de PersoWeb. PersoWeb, c'est un concours qui se déroule actuellement et qui est organisé par Le Soir et Bel RTL, un quotidien et une radio belge. Il est consacré aux podcasts, aux blogs et aux autres sites personnels. Déclencheur participe au concours et va avoir besoin de votre aide pour le vote des internautes. Le concours se déroule en deux parties. D'abord, un jury de professionnels a sélectionné sur les pratiquement 1000 sites qu'ils ont reçus, une vingtaine de sites répartis dans 4 catégories. La deuxième partie se déroule cette semaine, c'est le vote des internautes, c'est-à-dire votre vote. Je vais vous demander de prendre un instant pour aller voter pour Déclencheur. Vous trouverez le lien pour voter sur le site www.déclencheur.com. Attention parce que le vote ne dure qu'une semaine, donc il faut voter avant dimanche. Premier segment, l'édito, qui est consacré au choix d'un appareil photo. C'est une question que j'ai reçue plusieurs fois depuis le lancement de Déclencheur. Comment choisir? Vaut-il mieux prendre un compact, un bridge, un reflex, etc. J'espère consacrer un épisode entier à cette question et elle le mérite, mais en attendant, je vous livre un édito, c'est-à-dire mon avis sur la question. Un appareil photo est un compromis. Il n'y a pas d'appareil photo qui soit idéal pour toutes les circonstances, toutes les utilisations. Et c'est pour ça qu'on trouve toutes ces catégories, depuis les appareils intégrés au mobile, les compacts, les bridges, les réflexes, et même si on veut continuer, les moyens formats dont Pierre-Yves nous avait parlé dans l'épisode 5, et les chambres. En gros, le compromis est toujours entre la taille et le contrôle. Plus l'appareil est petit, moins il va nous offrir de contrôle. Par exemple, un appareil plus petit est plus bruyant. Il offre moins de résolution. Je parle ici de la résolution utilisable, pas du chiffre que le marketing publie et qui ne veut pas dire grand-chose. Il va nous offrir moins de profondeur de champ, moins de place pour les boutons extérieurs qui offrent des options de changer rapidement, etc., etc. Et donc, je vois les bridges et les compacts comme étant des appareils plutôt spécialisés. Il y a des petites merveilles dans ces catégories, mais il n'y a pas, en tout cas pas à ma connaissance, d'appareils vraiment polyvalents. Les bridges qui sont un peu plus gros sont un petit peu plus polyvalents que les compacts, mais ça reste quand même des appareils plus typés qu'un réflexe. Leur gros avantage, c'est la taille. Ce sont des appareils plus petits, plus compacts, plus faciles à emporter, donc qu'on va utiliser plus souvent et en final avec lesquels on se fera énormément de plaisir. La grosse difficulté, c'est qu'à l'achat, il faut les choisir correctement. Un bridge, par exemple, qui va être idéal pour des photos de sport, qui aura un grand télé stabilisé, un AF nerveux, etc., sera beaucoup plus mal à l'aise pendant les photos de famille. Parce qu'en photo de famille, on aura plutôt besoin d'un grand angle, d'un niveau de bruit qui sera assez faible, et les autres critères seront moins importants. Mais l'atout du bridge, c'est qu'en fait, vous n'avez besoin quasiment que de lui. Vous avez besoin de très peu d'accessoires, bien sûr, un sac pour l'emporter, pour le protéger, un trépied de table, et éventuellement un flash complémentaire, et c'est tout. L'idée, c'est vraiment d'avoir un petit système facile à emporter. Le réflexe, c'est l'inverse. L'idée, c'est d'avoir un jeu d'accessoires, un jeu d'objectifs qui permet de construire l'appareil photo idéal pour chaque circonstance. C'est un petit peu comme un Lego, on va combiner les pièces pour obtenir l'appareil idéal. Alors, si on fait de la photo de sport, par exemple, on va monter un télé. Pour les fêtes familiales, on va monter un grand angle lumineux, etc., etc. En plus de ça, on a la possibilité d'adapter des systèmes de flash, d'adapter des viseurs d'angle, etc., etc. Il y a une foule d'accessoires qui vient accompagner et compléter le système réflexe. La grosse difficulté à l'achat d'un système réflexe, c'est de choisir le système dans lequel on pourra évoluer. Bien entendu, tous les fabricants proposent un large éventail d'accessoires, ont des systèmes très polyvalents, et ce d'autant plus qu'en final, une bonne innovation d'un est rapidement copiée par les autres. Mais chaque fabricant conserve ses spécificités, une certaine manière d'arranger sa gamme, une certaine manière d'introduire les nouveautés, et donc par rapport à ça, il est important de choisir le système dans lequel vous vous sentirez à l'aise pour le long terme. Je répète et j'insiste, ceci est un édito, c'est-à-dire une opinion. Je sais qu'il y a d'autres critères qui vont rentrer en jeu quand on choisit entre compact, bridge et reflex, mais à mes yeux, le critère principal, le premier critère, il est là. C'est-à-dire, d'un côté, choisir la compacité, un appareil petit, facile à emporter et adapté à quelques usages, et de l'autre côté, sacrifier la portabilité pour la polyvalence et avoir un système qu'on va accessoriser, dans lequel on va s'équiper vraiment autour du boîtier. Sur le fond, je ne crois pas qu'il y a de bons ou de mauvais choix. Chacun de ces environnements a des qualités et des inconvénients, et il convient de prendre celui qui est le plus adapté par rapport à ses besoins. Par exemple, à côté de mes boîtiers Reflex, j'ai conservé un compact, un Coolpix, que je peux emporter quand je pars en voyage d'affaires et que je ne peux pas ou que je ne veux pas m'encombrer des Reflex. J'essaye d'ailleurs que déclencheur soit pertinent quel que soit votre appareil photo. Deuxième segment, donc l'archivage. Je continue sur la logique d'outre, c'est-à-dire d'étains plus légers à couvrir, mais pas nécessairement moins importants. Le sujet de cet épisode, c'est l'archivage des images numériques. Un des sujets qui avait en fait été plébiscité dans le sondage de l'épisode numéro 4. Vous remarquerez que je parle d'archivage et non pas de sauvegarde parce que je veux indiquer que je me concentre sur la durée. Sauvegarder un fichier, essentiellement, c'est faire une copie pour se prémunir d'un incident technique ou d'une erreur de manipulation qui détruirait le fichier. Il y a un côté immédiat quelque part à la sauvegarde. À l'inverse, archiver, c'est s'assurer qu'on pourra profiter de ces photos dans 10, dans 20 ou dans 50 ans. Le problème est par bien des côtés similaire à la sauvegarde, mais la dimension durée dans le temps historique rend l'archivage plus compliqué que la simple sauvegarde. Dans mon expérience, il y a très peu de photographes amateurs qui sauvegardent leurs photos, et moins encore qui les archivent. Il est assez intéressant de noter qu'Apple a récemment effectué un sondage auprès de ses utilisateurs et a découvert que seuls 26%, 1 sur 4, réalisent des sauvegardes. Quelque part, je crois que c'est logique. Pendant longtemps, sur des ordinateurs, on ne trouvait que des fichiers qui étaient remplaçables. On y mettait son CV, la petite correspondance, le budget familial, le meilleur score qu'on avait fait à l'un ou l'autre jeu, peut-être un peu de musique, quelques films amusants qu'on avait trouvés sur Internet, mais rien qui soit irremplaçable. Bien entendu, c'est toujours désagréable de perdre un fichier, mais ça peut être désagréable sans être catastrophique. Si on perd son CV, bah c'est l'occasion de le remettre à jour quelque part. C'est aussi l'occasion de recalculer le budget familial, et puis pour la musique, il suffisait de réenregistrer les disques. L'appareil numérique change complètement tout ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois que nous avons des fichiers irremplaçables sur notre disque dur. J'ai des connaissances qui ont perdu des photos de naissance, des photos d'événements familiaux aussi importants que d'une communion ou des vacances. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas revivre. On ne peut pas revivre une naissance pour la photographier. On ne peut pas revivre une communion pour la photographier. On peut peut-être repartir en vacances, mais ce ne sera pas la même chose. Personne n'est à l'abri d'un incident technique, d'un moment d'inattention, et brusquement, 1 an, 2 ans, 50 photos peuvent être perdues à tout jamais sans aucun espoir de retour. Je me dis toujours que j'étais chanceux, parce que comme tout le monde, je ne faisais ni sauvegarde, ni archive évidemment, et dans le mois qui a suivi l'achat de mon premier appareil numérique, j'ai perdu les photos d'un anniversaire. Je dis que j'ai été chanceux parce que, 1, il y avait d'autres photos que mes photos, et deuxièmement, ça m'a très tôt ouvert les yeux sur le risque, et donc j'ai rapidement mis en place une politique d'archivage. Avant de développer plus avant le timbre, je vais faire une petite mise en garde. Personne n'a de boule de cristal. Et donc quand on parle de conservation, puisqu'on parle de 10, 20 ou 50 ans, personne ne peut vous dire avec certitude comment conserver des fichiers aussi longtemps. Quel média sera disponible dans 20 ans? Quel système d'exploitation utiliserons-nous? Personne ne peut y répondre. Néanmoins, je vais coiffer ma casquette d'informaticien pour attirer votre attention sur quelques principes simples à mettre en place et qui sont un peu l'état de l'art en matière d'archivage. Vous verrez qu'en final, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, c'est simplement une discipline, une routine à acquérir. J'illustrerai, et c'est une nouveauté pour cet épisode, avec des extraits sonores pour vous montrer ma manière de travailler. Mais n'hésitez pas à l'adapter par rapport à vos besoins. Le secret de la réussite d'une archive, il est double. Numéro 1, il faut réaliser plusieurs copies sur des supports différents. Numéro 2, il faut établir une routine. Alors je crois que l'idée de réaliser des copies multiples sur des supports différents, ben c'est connu. C'est un peu la base de la sauvegarde, ça resterait un archivage. Les médias informatiques, que ce soit les disques durs ou d'autres, sont en final relativement fragiles. Heureusement, le stockage des disques durs sont relativement bon marché. Et la solution, c'est simplement de prendre 2 ou plus de copies. Résultat, si un des disques est défaillant, ben il reste la copie et on peut retravailler à partir de la copie. Le risque de perdre simultanément 2 disques est bien plus faible que de perdre un seul disque. Le risque de perdre 3 disques simultanément est quasiment nul. À titre de comparaison, et c'est marrant à constater, le film c'était quasiment l'inverse. Un film est plutôt résistant comparé à un fichier informatique, mais il est très difficile à copier avec une bonne qualité. Et donc quelque part à l'époque du film, c'est vrai que c'était d'un certain point de vue plus simple à archiver, on ne devait pas faire toutes ces copies multiples. Mais par contre, on devait mettre tous ses œufs dans le même panier, et s'il arrivait quelque chose au classeur dans lequel on avait rangé ses pellicules, eh bien, on perdait toutes ses photos aussi. Le gros atout de l'informatique en matière d'archivage, c'est que les copies ne dégradent pas les fichiers. La seule manière de dégrader un fichier, c'est de l'ouvrir et de l'enregistrer en JPEG. Tant que vous copiez les fichiers au niveau du système d'exploitation, vous ne les dégradez pas. Deuxième axe pour la réussite de l'archivage, c'est d'établir une routine. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. L'archivage doit devenir un geste automatique. Sinon, vous allez n'archiver que certains fichiers, vous allez risquer d'en perdre. Il faut vraiment archiver systématiquement. Et donc, en établissant votre routine, soyez très attentif à établir quelque chose de réaliste. On peut, sur le papier, inventer des routines qui ont l'air extraordinaires, mais qu'on n'arrivera jamais à mettre en œuvre tellement elles sont complexes. Mieux vaut une routine un peu plus simple, peut-être un petit peu moins sûre dans l'absolu, mais à laquelle vous allez vous tenir qu'une routine que vous n'appliquerez pas. C'est un peu comme en sport, hein, l'entraînement régulier, c'est ça qui compte. Voici, j'ai installé l'éclairage et je m'apprête à faire quelques photos. Donc première étape, évidemment, insérer la carte dans l'appareil. Voilà. Je vais la reformater puisqu'elle n'est pas vide. Les deux boutons. Et une deuxième fois pour confirmer. C'est prêt. L'archivage commence dès la prise de vue. Pour conserver une photo, il faut pouvoir la relire depuis la carte. En général, ça ne pose pas de problème, mais une mauvaise manipulation, par exemple effacer les fichiers par erreur, ou un problème technique avec la carte, ça arrive, ça m'est déjà arrivé, peut vous empêcher de la relire. Alors si c'est le cas, en général, c'est pas catastrophique, parce qu'il y a des logiciels de récupération. Pour ma part, j'utilise Image Rescue de Lexar, qui permettent de relire une carte dans pratiquement toutes les situations. Mais pour que ces logiciels fonctionnent bien, pour qu'ils soient capables de récupérer vos fichiers, il faut que la carte ne soit pas fragmentée. Et la meilleure technique pour ça, c'est simplement de reformater la carte chaque fois qu'on l'insère dans l'appareil. Ça multiplie considérablement vos chances de pouvoir récupérer les photos si vous aviez utilisé un logiciel de sauvegarde de la carte. J'ai utilisé une bonne vingtaine de fois Image Rescue et à chaque fois, parce que je reformate ma carte systématiquement, je n'ai eu aucun problème pour récupérer des images qui autrement auraient été perdues.
Je vérifie que l'appareil est bien en RAW plus JPEG pour pouvoir à la fois avoir en fait la qualité de l'image, donc le RAW, et en même temps un JPEG prêt pour l'archivage. Voilà qui est fait. Maintenant, ops, attention, première image.
Pourquoi RAW plus JPEG ? C'est cette fameuse question de la boule de cristal. Les logiciels, ça vient, ça va. Les marques, ça naît, puis ça disparaît. Ou même si la marque ne disparaît pas, ses priorités peuvent changer et elle peut abandonner un produit. Or, conserver un fichier, par exemple les fichiers RAW, sans être certain qu'on aura le logiciel pour les relire, c'est un souci. Vous aurez certes le fichier, mais sans le logiciel pour les relire, vous ne pourrez pas voir vos photos. Et donc, un des principes fondamentaux de l'archivage, qui n'est pas un principe spécifique pour la photo, qui est un principe général à tous les projets d'archivage, c'est de n'utiliser que des formats de fichiers ouverts, c'est-à-dire des formats de fichiers dont les spécifications sont librement accessibles, et qui peuvent être lus et traités par plusieurs logiciels, pour justement s'assurer d'une chance de pouvoir relire les fichiers dans 10, dans 20 ans, dans 50 ans, sur d'autres systèmes d'exploitation, dans d'autres environnements. Malheureusement, les fichiers RAW de presque tous les fabricants sont écrits dans des formats propriétaires, c'est-à-dire l'exact opposé de ce que je viens de dire. Il y a quelques exceptions, Leica, Hasselblad par exemple, enregistrent en DNG et publient les spécifications de leurs fichiers, mais malheureusement ce ne sont pas les produits les plus utilisés. Les marques les plus utilisées, en particulier Nikon et Canon, ne publient pas la spécification de leur format RAW. Le résultat, c'est qu'ils violent une des règles de base de l'archivage. Aussi, j'ai choisi d'archiver un JPEG à côté des RAW, partant du principe que JPEG est un format ouvert, avec l'avantage qu'il est fortement compressé, donc le surcoût de stocker un JPEG à côté du RAW est minimal. Dernier avantage, l'appareil produit automatiquement le JPEG en même temps que ce qu'il enregistre le RAW, et donc je perds le minimum de temps. Certains photographes font le choix de convertir le RAW propriétaire en fichier DNG, le format RAW entre guillemets normalisé d'Adobe. De nouveau, personne n'a de boule de cristal, c'est peut-être une bonne stratégie, mais personnellement je préfère archiver le fichier tel que l'appareil photo l'a produit. Je pars du principe que Nikon et Canon vendent des millions d'appareils photo. Et donc même si demain ils devaient abandonner le support pour leur fichier RAW, je suis persuadé que vu le volume, une offre de conversion serait mise en place, un petit peu à la manière dont il y a des offres de conversion aujourd'hui pour passer des VHS en DVD. Mais à l'inverse, le format DNG reste encore aujourd'hui un format marginal. On n'est pas sûr qu'il va atteindre une masse critique sur le marché. Et tant que ce n'est pas le cas, ça pose un souci, ça pose un risque pour le long terme. Le problème des formats ouverts n'est pas un problème, et je veux insister là-dessus, n'est pas un problème théorique pour chercheurs en blouse blanche. Les réflexes ont malheureusement une longue tradition de construire des systèmes fermés, Par exemple, la monture F n'est disponible que via Nikon, la monture EOS n'est disponible que via Canon. Les flashs TTL ne sont compatibles qu'avec le boîtier du fabricant, etc., etc. Il y a une tradition à fournir des accessoires propriétaires à la marque pour un petit peu vous enfermer dans le système. En soi, c'est déjà gênant parce que ça prive de compétition et donc ça amène la marque à vendre ses produits plus chers que ce qu'elle ne le pourrait, si elle avait un peu plus de compétition. Mais à la limite, ça ne concerne que la prise de vue, donc c'est un moindre mal. Par contre, en adoptant des formats propriétaires, nos fabricants s'emparent quelque part de nos images sur le long terme. La solution, c'est de faire comprendre aux fabricants que nous ne sommes pas dupes. Et je vous invite en particulier à participer à l'initiative OpenRAW, www.openraw.org, qui demande aux fabricants d'ouvrir, de documenter leurs formats propriétaires pour nous permettre d'archiver et de préserver réellement nos fichiers RAW. Attention, c'est un sujet technique et certains fabricants en profitent pour jeter de la poudre aux yeux. Nikon, par exemple, qui agit son SDK comme étant la réponse à tous ces problèmes d'archivage. Ce n'est absolument pas une réponse valable. Pourquoi ? Parce que le SDK, il est développé et maintenu par Nikon. Et donc, ça veut dire que Nikon garde le contrôle sur nos photos. Si demain, Nikon décide de réorganiser et abandonne le support du SDK, les photographes seront privés de leur image. De nouveau, une restructuration, ça arrive. Et on l'a vu en photo récemment avec la disparition de Minolta. Il est essentiel que les fabricants respectent les principes de l'archivage. Ils ont été mis au point il y a des années et ce sont des principes sains. Et en particulier qu'ils ouvrent, qu'ils publient le format de leur fichier RAW.
Alors ne nous méprenons pas. J'espère évidemment que Nikon et les autres fabricants, d'ailleurs Canon, Sony, Pentax, va continuer à prospérer et va continuer à sortir des produits aussi innovants que s'il le fait aujourd'hui. Je l'espère d'autant plus dans le cas de Nikon que j'ai déjà un lourd investissement dans leur matériel. Mais, et c'est ça le sujet de cet épisode en final. Du point de vue de l'archivage, il est essentiel que nous n'ayons pas à dépendre de la sorte du support d'une société. J'ai des photos sur film Agfa. On sait ce qui est arrivé à Agfa Photo, ils ont disparu. Mais néanmoins, ces photos, je peux toujours les faire tirer. Je crois que nous ne devons pas accepter une diminution de cette qualité de conservation en passant au format RAW. J'ai critiqué particulièrement Nikon parce que, à mes yeux, c'est la société qui a jeté le plus de poudre aux yeux sur ce sujet. Non, c'est peut-être simplement parce que c'est la société dont je suis le plus l'actualité. Mais ce serait une erreur de croire que les autres fabricants ne sont pas également coupables. Canon, Pentax, Sony utilisent eux aussi des formats propriétaires fermés qui sont un réel risque pour l'archivage.
Bref, la situation étant ce qu'elle est, et tout en participant à la pétition OpenRAW, en attendant, aujourd'hui, je crois que le JPEG plus RAW est le compromis idéal. Si j'ai besoin de conserver de la place sur mes cartes et que je ne veux pas enregistrer à la fois le JPEG plus RAW, j'utilise une fonction de ma visionneuse photomécanique qui permet en fait d'extraire très rapidement le JPEG à partir du fichier RAW. C'est un rien plus long, mais ça me permet de gagner de la place sur les cartes.
Voici, j'ai fini en fait la session, là, donc je vais transférer les photos sur l'ordinateur, je les retourne au bureau. J'ai un lecteur externe pour faire ça. Peut-être pas très accessible, mais il est quand même beaucoup plus rapide que de brancher l'appareil. Alors je copie systématiquement toutes les images dans le même répertoire, j'ai un répertoire dédié pour ça qui s'appelle Import. Il est sur un disque externe, j'y mets toutes les images et puis après je les retrie, je les réorganise. Donc depuis mon répertoire Import, je les réorganise vers l'endroit approprié. Pour faire la copie, j'utilise l'utilitaire standard system ou j'utilise parfois photomécanique en fonction de ce qui est démarré. Puis en plus, il me monte les images au fur et à mesure, ce qui est toujours sympathique. Ça occupe 9 photos restantes, 8 photos.
Comme je l'ai déjà expliqué, je crois qu'il est important d'acquérir une routine. Si vous laissez les fichiers s'accumuler, ben vous les archiverez jamais. Personnellement, j'utilise des cartes de 512 mégaoctets parce que leur taille correspond plus ou moins à celle d'un CD. Et donc quand j'ai fini une carte, j'ai pratiquement un CD prêt à être archivé.
Il me reste en fait à classer tout ça. Donc je crée en fait un répertoire pour chaque session. Ah oui, d'abord, l'original est directement mis en sécurité. Il me reste plus maintenant qu'à classer les photos. Donc j'ouvre le dossier dans Photomécanique, duquel je vais pouvoir copier, déplacer les fichiers, et puis surtout je vais pouvoir rajouter les métadonnées. Ça c'est très important. Alors le principe c'est qu'en fait l'appareil a déjà enregistré quelques métadonnées. Il a enregistré la date, l'heure, les informations de la prise de vue, mais je rajoute le lieu où la photo a été prise et au minimum une description de la séance.
Archiver des photos, archiver nos fichiers sans aucune information qui permettra la recherche, je ne vais certainement pas dire que c'est inutile, mais c'est de se créer de gros problèmes à l'avenir, parce qu'il sera quasiment impossible de retrouver le fichier dont on a besoin. Donc il est très important d'annoter les photos avec ce qu'on va appeler des métadonnées, des données qui viennent compléter les données de l'image. L'appareil en enregistre automatiquement certaines, par exemple la date et l'heure, mais j'ajoute le lieu et la description de la photo. C'est un peu un classement. Il y a autant de techniques de classement que ce qu'il y a de photographes. Certains impriment des planches contact qui rangent avec leur CD, d'autres utilisent des logiciels spécialisés qu'on appelle des catalogueurs et qui gèrent une petite base de données de toutes les photos et de leurs métadonnées. Personnellement, je pense que les planches contact ne sont pas très pratiques quand on doit chercher une photo. Quant aux catalogueurs, je leur reproche d'être basés sur une base de données fermée et donc de retomber dans le problème dont on vient de parler, c'est-à-dire un format propriétaire, un format qui n'est donc pas approprié à l'archivage. Donc j'ai choisi d'annoter mes photos directement sur la photo en utilisant des normes ouvertes, la norme IPTC et la norme XMP. Le nom est un peu technique, mais c'est simplement des normes ouvertes qui précisent comment écrire les métadonnées associées à une image. Le point intéressant, c'est que comme ce sont des normes ouvertes, ils sont gérés par 90% des logiciels d'image, y compris Photoshop. Et comme les données sont incluses dans le fichier, ou dans un fichier qui vient à côté du fichier image, elles restent disponibles, quel que soit le logiciel et quelle que soit la plateforme. En associant les images à un nom de dossier bien choisi et quelques petites conventions très simples, je constate que je retrouve mes images aussi vite que si j'utilisais un catalogueur. C'est particulièrement vrai depuis l'arrivée de Spotlight dans Mac OS X, il y a à peu près un an et demi. Spotlight indexe complètement le disque dur, un peu à la manière de Google, et permet de retrouver les images sur base de leurs métadonnées quasiment instantanément. Sur Windows, ce service n'est pas disponible, mais vous pouvez télécharger Google Desktop Search, qui est un produit gratuit et qui fait exactement la même chose.
Voilà, je peux maintenant graver le CD d'archive. Donc je le sors de son emballage. Je l'insère dans la machine et on est parti. Je n'utilise pas un logiciel particulier pour faire la gravure. En fait, je fais ça directement depuis le Finder. Ce que je fais par contre, c'est que je veille à bien graver à vitesse lente. Donc je mets le titre et puis je choisis bien une vitesse 8 fois par exemple.
Pour une bonne sécurité, il faut au minimum deux copies de chaque fichier. Une copie de travail et une copie d'archive. En cas de perte de la copie de travail, on pourrait la reconstruire à partir de la copie d'archive. D'où l'importance que les deux copies ne soient pas sur le même support. Il est clair que si vous avez fait deux copies sur le même disque dur, le disque dur tombe en panne, bien vous avez perdu vos deux copies, y compris la copie d'archive. Pour plus de sécurité, le mieux est de faire trois copies de ces fichiers. Et la troisième copie, on la conserve loin de l'ordinateur, dans un autre bâtiment. On peut aussi faire quatre ou cinq copies, mais au-delà de trois copies dont une qui est conservée dans un bâtiment différent, le gain de sécurité devient vraiment minime. Les CD sont de moins en moins populaires pour les sauvegardes et l'archivage parce qu'ils sont assez lents à graver et en final assez encombrants. Il faut beaucoup de CD, il faut beaucoup d'espace pour stocker tous ces CD. Mais ils ont quelques qualités qui les rendent quand même intéressants. À condition d'utiliser des CD de qualité, des CD construits pour l'archivage, la conservation est excellente. En plus, les CD ne peuvent pas être effacés par erreur, contrairement à un disque dur par exemple. Les CD ou les DVD d'ailleurs ne sont pas tous égaux en matière de longévité. Certains CD sont illisibles après seulement 5 ou 10 ans. Personnellement, j'utilise des CD MAM Gold parce que ce sont des CD qui sont toujours bien classés dans les tests de résistance. Deuxième point, pour de l'archivage, il faut graver à vitesse lente, maximum 12 fois, idéalement 8 fois ou 6 fois. En gravant à vitesse plus lente, le laser fait une marque plus importante et donc vous augmentez les chances de pouvoir relire le fichier à l'avenir dans le temps.
Une fois que la gravure est terminée, l'appareil a déjà fait une première vérification, mais je rouvre 2-3 photos au hasard pour vérifier qu'en fait tout s'est bien passé. Et j'inscris. Et j'inscris sur le boîtier une petite description des photos, une petite description de la session, ainsi que le code. Chaque CD chez moi a un code, c'est ce qui me permet en fait de faire le rapprochement entre le disque externe, les CD, etc., etc. Ce CD par exemple, c'est le 2006B72. Donc 2006 c'est l'année, B c'est Benoît et 72 c'est le 72e CD cette année.
La copie d'archive, elle va aux archives et on n'y touche plus. On ne travaille jamais à partir de la copie d'archive. Elle l'a uniquement pour voir récupérer la photo en cas de problème avec la copie de travail.
Une fois que ça est fait, la carte elle est prête à être formatée. Il reste une dernière étape que je ne vais pas faire aujourd'hui, que je ne vais pas faire maintenant. C'est à peu près tous les 2 mois, je copie mon disque externe sur un autre disque. Comme ça prend pas mal de temps, je lance en général ça en soirée, ça se fait pendant la nuit. Je récupère le nouveau disque prêt le matin. Et en fait, j'ai deux disques de ce type-là. Je fais une rotation avec un autre disque qui est placé chez ma mère. Donc comme ça, je sors en fait une copie des photos de la maison. C'est une troisième copie des photos qui est stockée en externe. Mais bon, c'est un surcroît de sécurité, ça prend quand même du temps. Donc là, je le fais pas aussi régulièrement que l'archivage.
Les disques durs externes sont plus rapides, bien moins encombrants et en final moins chers, et ça m'a surpris, moins chers au gigaoctet que les CD d'archivage. Résultat, de plus en plus de photographes archivent exclusivement sur disque externe. Ce faisant, attention, il y a une règle très importante à respecter, vous devez avoir deux disques d'archivage. Ceci bien sûr en plus de la copie de travail, puisque je parle à des disques d'archivage, et je le répète, on ne travaille jamais à partir de la copie d'archive. Pourquoi deux disques? Parce que contrairement au CD, qu'on ne peut pas effacer par accident, le disque dur, on va le reconnecter à la machine chaque fois qu'on refait une archive. Et donc, sur le temps où on le reconnecte à la machine, il y a un risque pour l'archive, un virus, une erreur de manipulation, la foudre, on pourrait détruire le contenu du disque, et donc perdre son archive. Donc, on va utiliser deux disques et faire une rotation entre les deux. Celui sur lequel on est en train d'écrire, qui contient la dernière version de l'archive, qui est connectée à la machine, et la version précédente, qui n'est pas connectée à la machine en même temps que la version sur laquelle on est en train de travailler, et qui veut dire que si on perdait la version qu'on est en train de compléter, eh bien il reste au moins la version précédente. En l'occurrence chez moi, cette deuxième version, elle est carrément hors de la maison. Je vois parfois des gens qui connectent deux disques à leur machine et qui disent ben, « je copie mes fichiers sur l'un et puis je les recopie sur l'autre, et comme ça je suis tout à fait en sécurité ». Deux disques connectés en permanence à la machine ne vous apportent que très peu de sécurité. Vous n'êtes pas protégé contre les virus, vous n'êtes pas protégé contre la foudre, vous n'êtes pas protégé contre le vol, et vous n'êtes pas protégé contre certains incidents techniques qui peuvent détruire tous les disques connectés à une machine. Le fait de connecter deux disques à la machine vous protège simplement d'un incident mécanique sur un des deux disques. Si un des deux disques tombe en panne, bien vous pouvez continuer à travailler sur l'autre. Pour tous les autres incidents, il faut assurer une sauvegarde. Deuxième petit conseil, et je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ne conservez pas le disque externe, les disques externes de sauvegarde trop près de la machine. En cas de vol, on risque d'emporter la machine et tous les disques externes. Et malheureusement, c'est quelque chose que j'ai également vu.
Pendant la gravure, j'ai déjà commencé à développer quelques photos. Ben, quand je les archivais sur le même principe que l'archivage des RAW, c'est-à-dire que je vais mettre le fichier Photoshop complet avec tous ses calques, ou le TIFF si j'ai développé en TIFF, parce que je ne développe pas toutes les photos en Photoshop avec calques. Et je vais stocker ça, plus un fichier JPEG, donc pour exactement les mêmes raisons, le format propriétaire et le format ouvert.
Pour résumer un peu cet épisode, perdre des photos, c'est une catastrophe. Les photos sont sans doute les premiers fichiers irremplaçables que la plupart d'entre nous stockons sur nos disques durs. Donc cette fois-ci, on n'y coupera plus. Il est temps de mettre en place une politique de sauvegarde au minimum, voire une politique d'archivage. Pour faire de la sauvegarde ou de l'archivage, vous devez réaliser plusieurs copies sur des supports différents. Et à tout moment, vous devez avoir une copie qui est sur un disque qui n'est pas connecté à la machine. Ça veut dire, si vous travaillez avec des disques durs, il vous faut au moins deux disques d'archives. Pour être certain de sauvegarder vos données, eh bien vous devez mettre en place une routine qui soit à la fois sécurisée et réalisable, c'est-à-dire quelque chose que vous allez faire au quotidien. Et dernièrement, le problème du format, le problème des métadonnées. Personne n'a de boule de cristal, personne ne peut vous dire quels formats seront lisibles dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, sur quelle plateforme vous travaillerez. Et donc, il est important d'essayer d'utiliser des formats ouverts et de pousser les fabricants à publier les spécifications de leurs fichiers RAW. Je termine par un clin d'œil. Si vous n'avez pas envie de mettre en place une politique d'archivage, faites tirer vos photos ou tirez-les vous-même et archivez-les dans un album photo. On fait ça depuis plus d'un siècle et ça donne toute satisfaction.
Troisième segment, vos commentaires et vos réactions. Pour laisser un commentaire, une suggestion ou un message d'encouragement, vous pouvez visiter le site www.déclencheur.com et laisser un message texte complètement gratuitement. Vous pouvez également utiliser la boîte vocale, qui est pratique puisqu'il ne faut pas d'ordinateur pour s'en servir et qui est gérée par la société VoxUp. En France, vous faites le 08 92 23 03 22 à 34 centimes d'euros la minute et vous devrez saisir le code service 8208. En Belgique, vous faites le 0902 88 128 à 74 centimes d'euros la minute et vous devrez saisir le code service 8208. En Suisse, vous faites le 0901 701 705 à 2,50 francs la minute et là aussi, vous devrez saisir le code service 8208. Attention, vous devez confirmer votre commentaire avant de raccrocher, donc écoutez bien les instructions. Les commentaires vocaux seront repris sur le site et dans le podcast.
Alors je dois dire que vos commentaires ont été incroyablement nombreux depuis l'épisode précédent, puisque vous avez laissé en tout plus de 60 commentaires sur le site. Ça m'a fait très très plaisir de voir ça, mais je n'en croyais pas mes yeux. Malheureusement, ça veut dire que contrairement à l'habitude, je ne vais pas pouvoir répondre et réagir à tous vos commentaires, parce que vous imaginez bien que vu la masse, si je devais répondre à tout, il faudrait un épisode dédié rien que pour les commentaires. La plupart de vos commentaires, en fait, étaient consacrés au sondage, puisque vous avez laissé en fait 43 votes sur le sondage. Clairement, les thèmes gagnants sont le RAW et la photo de nuit, l'épisode proposé par Nicolas Esposito, donc c'est des épisodes qu'on va enregistrer et qu'on va réaliser très bientôt. Certains d'entre vous ont également laissé des suggestions, des propositions en plus de ce qui était prévu dans la liste. J'ai lu toutes ces idées, certaines m'ont paru très intéressantes et je crois pouvoir les développer. D'autres m'ont paru intéressantes et je ne suis pas certain de pouvoir les développer. Donc si d'aventure un des thèmes vous tente, ben vous prenez contact avec moi et ensemble on s'arrangera pour réaliser l'épisode. Certains d'entre vous l'ont déjà fait et dans les prochains épisodes on aura des segments préparés par des auditeurs, ce qui est pour moi très très intéressant puisque le but du podcast en final c'est de parler de photos tous ensemble. De façon générale, vous m'avez aussi laissé énormément d'encouragement. La plupart du temps, quand vous votiez, mais en même temps, vous laissiez un petit message d'encouragement. C'est très gentil. Ça montre que le podcast répond à un besoin, que vous l'appréciez. Je veux dire que ça m'encourage beaucoup à aller de l'avant. Donc, merci encore une fois de votre soutien qui n'a jamais faibli depuis le lancement de Déclencheur. Et en parlant de votre soutien au podcast, je note que vous avez maintenant distribué 77 autres cartes promotionnelles. Dans tous les commentaires, il y en a un que je veux particulièrement épingler, c'est celui de Baptiste Recoul. Baptiste est ingénieur du son, pigiste, et il proposait dans le commentaire de me donner quelques conseils sur des aspects du son qui ne sont pas optimum dans Déclencheur. Ça a donné lieu à un échange d'emails très copieux et extrêmement utile. J'ai compris énormément de choses que je ne comprenais pas jusqu'à présent. Je crois que petit à petit, vous allez pouvoir apprécier d'ailleurs une amélioration dans la qualité du son de Déclencheur. Il faut encore un peu de temps pour digérer tout ça, il faut le temps d'intégrer, mais je crois vraiment que cette aide a vraiment été précieuse. Baptiste a également proposé un nouveau concept, ce qu'on va appeler les déclencheurs mini. L'idée des déclencheurs mini sera de faire des épisodes d'une minute trente, deux minutes, consacrés à un sujet technique. Sauf problème de dernière minute, déclencheurs mini démarre la semaine prochaine, lundi prochain. Les commentaires reçus consacrés à l'épisode précédent, l'épisode sur l'exposition et un petit peu sur l'utilisation des fichiers RAW, dans l'édito. Alors d'abord un commentaire d'Yves Dagnon qui m'interroge sur le support d'une Nikon D200 dans Adobe Camera Raw. Moi je m'en sers, donc j'utilise à la fois Camera Raw et un D200 et je n'ai aucun problème pour faire le développement. Donc je crois qu'il suffira de faire une mise à jour et que vous devriez pouvoir effectivement développer ces fichiers. Maxime Christelin et Mathieu ont déposé des commentaires sur l'utilisation d'un objectif très lumineux comme le 50 mm que je vous recommandais dans l'épisode précédent. Maxime voit un avantage supplémentaire à l'objectif qui est sa valeur éducative par rapport à un zoom. En effet, avec un objectif à focale fixe, on se déplace pour cadrer. Ça amène à se promener autour du sujet, ça amène à voir le sujet sous des angles différents et ça amène peut-être à construire des photos plus intéressantes. Sur le même thème, Mathieu a également laissé un commentaire en faisant remarquer que ces focales fixes abordables en fait donnent une grande liberté au photographe. Là, je dois dire que je suis tout à fait d'accord. Les zooms sont formidables et ils ont beaucoup d'usages très pratiques. Mais c'est vrai que ces focales fixes, avec une grande ouverture et bon marché, sont un vrai plaisir à utiliser. Nicolas Esposito a également déposé un assez long commentaire pour compléter l'épisode. Et un des points sur lequel il attire notre attention, c'est le fait que l'augmentation de l'ISO dont je parlais peut également s'utiliser avantageusement avec le flash, puisque la sensibilité élevée en fait permet de saisir l'arrière-plan, qui sinon effectivement au flash est souvent assez sombre et c'est désagréable. Retour sur l'objectif lumineux avec un commentaire de Pierre BGT, qui en forme de boutade fait remarquer que l'écoute de déclencheur commence à coûter assez cher. Pierre terminait avec une suggestion d'épisode qui pourrait être consacré au nettoyage et à l'entretien du matériel, sur quoi Calusarus réplique en s'interrogeant pour savoir si l'entrée des poussières dans la chambre du réflexe, qui fait que certaines personnes hésitent à changer d'objectif, est réellement un problème. Je crois qu'avant toute chose, il faut faire preuve de prévention, donc acheter des sacs et les conserver à l'abri de la poussière. Et de façon générale, je crois qu'il faut essayer d'éviter de devoir nettoyer trop souvent et plutôt jouer sur l'accent préventif. Deux commentaires reçus sur l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode consacré au cadrage. Une réaction de Francis sur l'édito dans lequel je mettais en garde contre la pratique de partager ses photos sur Internet, qu'il aurait tendance à relativiser le problème. Je crois qu'il est bon que chaque photographe se pose la question, puis prenne une décision en fonction de son sujet et de son tempérament. Enfin, un commentaire de Maxime Grislin, qui suite à l'épisode s'est équipé d'un verre de visée portant un quadrillage. Maxime rapporte que de fait, ce quadrillage lui simplifie beaucoup la mise en œuvre de la règle et que le quadrillage a une autre utilité puisqu'il lui permet de vérifier que l'horizon est bien d'aplomb. Alors clairement, oui, c'est une assistance à la composition. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en visitant le site www.déclencheur.com. Je rappelle que l'abonnement est complètement gratuit. C'est simplement un moyen d'être averti de la mise à disposition des nouveaux épisodes.